que la presse entame aujourd'hui dans ses pages. Et c'est Katia Gagnon qui va nous en parler, journaliste et chef de l'équipe d'enquête de la presse. Bonjour, Katia.
Bonjour, Bernard.
Ce grand dossier d'enquête sur le crédit, en particulier sur les faillites à répétition. Écoute, moi, je suis encore estomaqué de ma lecture.
Et moi, de ma recherche. J'en reviens pas, moi non plus, Bernard. Parce que, dans le fond, pour résumer ça rapidement aux gens, le nombre de faillites au Canada, il est en légère baisse, les faillites en général. Mais les faillites, les multifaillites, là, donc faire faillite plus qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça, c'est non seulement pas en baisse, c'est en hausse importante. Au Québec, c'est en hausse de 50 % depuis 10 ans. Et le Québec, donc, est le champion de ces multifaillites. On a 43 % des deuxièmes, 58 % des troisièmes, 74 % des quatrièmes et 90 % des cinquièmes.
Ça n'a aucun bon sens.
Non.
Franchement, là, tu lis ces chiffres-là puis tu te dis, on aime ça se flatter à bedaine des fois, les Québécois, là, mais je vais dire, on n'a vraiment pas raison d'être fiers de cette statistique-là. Là, tu dis, on est les champions au Canada.
Oui.
Pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième... Non, mais y a-tu bien du monde qui font cinq faillites dans leur vie, Cathy?
Ben oui, écoute, y en a 20 l'an dernier qui ont fait faillite cinq fois, dont 19 sont au Québec. On mentionnait dans ce dossier-là le cas de la famille Bélanger-Fournier, donc qui a fait 8 faillites à 3, 6 faillites personnelles, 2 faillites d'entreprise. Donc ça, c'est ce qui fait dire aux régisseurs, là, aux gens qui connaissent ça, là, aux syndics, que la faillite, le système est utilisé comme outil de blanchiment fiscal.
Hein? Ben oui.
Et ce qu'on se dit, bon, premier réflexe, là, c'est comment ça que ces gens-là ont encore du crédit?
Ben oui.
Hein? On pense après une faillite, bon, c'est difficile d'avoir du crédit. Alors, la surprise, c'est non. Hein? Les conséquences de la faillite, là, sont souvent minimes. Souvent, les gens gardent leur maison, ils gardent leur auto et ils gardent leurs meubles. Parce que, ou la maison est hypothéquée jusqu'à l'os, les meubles, ça a peu de valeur. Donc, les gens gardent tout ça. C'est très rarement saisi. Et... ce qui m'a jeté à terre dans ce dossier-là, Bernard, c'est qu'ils continuent à avoir accès au crédit. Hein? Je vais te donner un exemple là, je précède un peu notre dossier. Cette partie d'accès au crédit va être publiée un petit peu plus tard cette semaine, mais je tenais à t'en parler. Donc, on va se parler du cas d'un monsieur qui s'appelle Gérard Ongo, qui est un habitant de la Nouvelle-Écosse. Hein? La Nouvelle-Écosse, per capita, là, c'est là qu'on fait le plus faillite au pays. Donc, il se présente devant le juge pour sa cinquième faillite. Hein? Il a déjà fait faillite cinq fois, là, il fait une cinquième faillite. Dans son portefeuille, là, il y a deux cartes de crédit. Deux cartes de crédit sur lesquelles il y a 20 000 $ de dette.
Hein? OK, et puis lui, il a 20 000 $ de dette sur deux cartes, puis il a fait faillite quatre fois.
Exact, exact. Alors, ce qui a, disons, amené le registraire qui a jugé son cas à dire... Lui permettre d'avoir accès à une carte de crédit, c'est comme donner une arme à un enfant. Hein? Donc, le mot faillite, là, il était dans son dossier de crédit et deux fois plutôt qu'une. La question est, pourquoi on y donne encore des cartes de crédit à cet homme-là?
Oui, hein? C'est une excellente question.
Comment ça se fait que, puis je vais te dire, c'est qui les deux pires? Là? Les deux pires, c'est Capital One et Canadian Tire. Ces deux institutions-là, donne des cartes de crédit, vraiment, si on résume brutalement, à n'importe qui. Hein? Et M. Ongo, lui, donc, il fait partie des très rares cas où on a refusé la libération. Le registraire, il a dit, la personne se présentait pour être libérée de sa faillite et on lui a refusé. C'est arrivé juste dans 5 % des cas. Cet homme-là, là, après...
Donc, on refuse... Attends un petit peu. Donc, on refuse... on te refuse de passer dans l'après-faillite.
Toi, exactement.
Là,
c'est exactement. Ça, hein? T'es pas libéré de tes dettes, quoi.
Alors, hein? Ça veut dire, c'est quoi les conséquences pour lui?
Il
perd-tu ses deux cartes de crédit, mettons?
Il continue à se faire achaler par ses créanciers. Ça, c'est la première chose.
Okay.
Est-ce qu'il perd ses cartes de crédit? C'est une bonne question. Je le sais pas. Dans cette enquête-là, on a vu des gens qui avaient, Bernard, jusqu'à 27 cartes de crédit en leur possession.
Okay,
27,
ça n'arrête pas de bien aller.
Alors que le salaire de ces gens-là était généralement pas très élevé, hein? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour avoir accès à autant de crédit? Bien, ils mentaient. Ils mentaient sur leurs revenus. Plutôt que de gagner 20 000, soudainement, ils gagnaient 75 000. Hein? Donc, okay. Puis, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on est vérifié de tout bord, tout côté dans la vie. Il hein? faut montrer patte blanche pour absolument tout. Mais pour avoir une 26e carte de crédit, comment ça se fait qu'il n'y a pas une institution bancaire qui flash là, puis qui dit « Ben voyons, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait autant de cartes. Hein? » Et cet homme-là, donc, il a fait faillite avec des sommes dues qui atteignaient plusieurs centaines de milliers de dollars.
Moi, ce qui me fascine là, dans toute cette enquête-là, là, qui se continue donc dans les prochains jours, c'est que j'ai vraiment... Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un, je pense que c'est le registraire Albertin que vous citez.
Mm-hmm.
La loi sur les faillites visait à protéger des personnes malchanceuses mais honnêtes.
Exact.
Leur donner une occasion de prendre un nouveau départ. La loi sur les faillites n'a pas été conçue pour être utilisée comme un outil de blanchiment budgétaire régulier. Dans les faits, ces multirécidivistes de la faillite, c'est comme s'ils détournaient la loi sur les faillites, le sens de la loi sur les faillites, à des fins malhonnêtes.
Exactement. Ils ont compris comment ça marchait, puis le système, il marche bien pour probablement 90 % des gens qui, effectivement, la faillite, là, faut pas jeter l'opprobre sur ces gens-là. Des fois, ça peut être une dépression, ça peut être une séparation, ça peut être toutes sortes de... une perte d'emploi, toutes sortes de circonstances souvent malheureuses qui relèvent pas nécessairement de la faute des gens. Hein. Mais quand on est rendu qu'on fait faillite 3, 4 puis 5 fois... là, ça peut pas être juste de la malchance. Et oui, tu as raison, ces gens-là, cette minorité, ils ont compris comment le système fonctionnait et ils l'utilisent à leur profit. Hein? Ils l'utilisent à leur profit parce que la façon que ça fonctionne, la première et deuxième faillite, tu n'as pas besoin de passer devant un juge. Mais à partir de la troisième, oui, tu as besoin de passer devant un juge parce que le juge doit justement te libérer, te suspendre ou refuser carrément la libération. Et... les juges, ils n'ont pas de normes pan-canadiennes. Il n'y a pas de normes genre, bon, ben on l'a rendu à cinquième faillite, il faut que les conséquences soient importantes. Alors, ce qui fait que des fois, les gens font faillite pour la troisième et la quatrième fois, les conséquences sont moins importantes qu'à la deuxième faillite.
Ça se peut pas, Katia.
Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et cette enquête-là, je pense, a permis de mettre le doigt sur quelque chose qui est inquiétant et qui nous coûte quelque chose à tous, Bernard.
Ah oui, ça, c'est hein? important. Ça,
c'est très important parce que souvent, les dettes de ces gens-là, c'est des dettes de nature fiscale. Donc, ils doivent de l'argent à Revenu Québec ou à l'Agence de revenus du Canada. Ça, c'est des impôts qui doivent servir à payer bien, toutes les choses qu'on a besoin de payer, les écoles, les hôpitaux, les CPE, et qui n'y va pas là, dans ces endroits-là parce qu'il n'est pas payé. Depuis 5 ans, là, il y a 2 milliards de dettes fiscales qui ont été effacées par Revenu Québec, puis 4 milliards par l'Agence du revenu du Canada. Donc,
ça, c'est du monde qui n'ont pas payé leur impôt parce qu'ils ont fait faillite.
Exactement.
Parce que dans le fond, le premier créancier à qui ils devaient de l'argent, c'était l'impôt.
C'est ça.
En déclarant faillite, dans le fond, ils sont lavés, dans bien des cas,
oui.
de cette dette-là. Ils n'ont pas besoin de la payer. Puis c'est le bon citoyen qui nous écoute, qui lui paye ses taxes et ses impôts, qui dans le fond va payer pour les services des crosseurs, ceux qui ont réussi à s'en sortir puis qui continuent d'aller à l'hôpital quand ils sont malades.
C'est ça, exactement. Et c'est les gens comme toi, moi et les auditeurs qui paient des taux d'intérêt astronomiques sur des cartes de crédit, hein, des taux qui peuvent aller 14, 15, 18 %. Pourquoi ils chargent des taux d'intérêt élevés comme ça, ces cartes-là? C'est parce que, justement, il y a des tonnes de gens qui ne paient pas ce qu'ils doivent à ces institutions-là et ils compensent, eux, les institutions, en mettant en place des taux d'intérêt élevés dont tout le monde écope. Donc, c'est pas juste les
agences de revenus qui payent et qui perdent. C'est aussi les entreprises privées, les émetteurs de cartes de crédit aussi qui, dans une faillite, se retrouvent évidemment à perdre l'essentiel, sinon la totalité de ce qui leur est dû.
C'est
et puis là, ben les agences émettrices, les compagnies Mastercard, Visa et compagnie se reprennent sur le bon payeur en augmentant de 0,25%, mettons, le taux d'intérêt de tout le monde pour compenser pour les pertes.
C'est ça. Donc, c'est vous... tout le monde là, qui payait pour ces gens-là qui ont vraiment réussi à détourner ce système en leur faveur.
Comment t'expliques qu'il n'y ait pas plus de conséquences, toi? Parce que moi, j'ai été élevé dans des valeurs qui sont en train de devenir dépassées. Mais moi, là, dans l'éducation que j'ai reçue, Katia, là, c'est important. La réputation, c'est important d'avoir un nom. Puis faire faillite, c'était honteux. Puis je suis d'accord avec toi, Il faut faire attention. Faut pas mettre tous ceux et celles qui ont fait faillite dans le même panier parce que ça arrive, la malchance. Tu sais, par exemple, en première heure, je parlais à des personnes là, qui sont atteintes du cancer, là, mm-hmm. qui ont droit seulement à 15 semaines sur l'assurance-emploi. Ça se peut qu'à un moment donné, faute de revenus, t'es tombé malade, t'as plus de revenus, t'es à côté partout, il y a plus personne qui veut te prêter parce que, qu'est-ce que tu veux, la famille t'a donné ce qu'elle pouvait te donner puis t'as plus d'argent. À un moment donné, ça se peut que tu fasses faillite parce que t'as été malchanceuse ou parce que la maladie t'est tombée dessus. Faut faire attention pour pas généraliser. Mais visiblement, tu as du monde qui sont malhonnêtes et qui se foutent de la réputation et du nom qu'ils peuvent avoir. Ils s'en foutent de perdre leur nom.
Ben oui, je pense que tu as raison. Je pense que il y a 25, 30 ans, 40 ans, la stigmatisation par rapport à la faillite là, était très importante. Hein. Comme tu dis, là, je vais perdre mon nom, mon honneur et tout ça. Moi, je pense que, honnêtement, pour avoir vu ces chiffres-là, que les gens au Québec ont beaucoup de difficultés à s'expliquer, moi, je pense qu'il y a une partie de déstigmatisation. Justement, c'est plus aussi honteux qu'avant. Que de faire faillite.
C'est même facile, Katia. Ce que tu nous expliques, ce que vous nous expliquez dans le reportage, c'est que c'est pas juste que tu... Dans le fond, c'est en train de devenir banal, jusqu'à un certain point, c'est en train de devenir banal, mais c'est très facile aussi de faire faillite avec très peu de conséquences.
Oui, exactement. Donc, comme les conséquences sont pas là, les gens qui sont mal intentionnés, ils font faillite une fois, ils voient ça. Hey, coudonc, c'est rien là, faire faillite. Hein. Bien, bon, on repart avec un nouveau chéquier, puis on repart en grande. Donc, c'est sûr que, oui, le résultat, c'est ce qu'on a là. C'est une augmentation de 50% de ce genre de faillite-là depuis 10 ans. Et il y a rien qui montre là, un ralentissement là, dans les derniers chiffres.
Penses-tu, en terminant, que ce genre d'excès que vous nous exposez peut mener à un resserrement de la loi sur les faillites dont les bons citoyens feraient les frais?
Bien, j'espère que non, parce que vraiment, il faut que le système de faillite au Canada continue à être quelque chose de relativement clément pour cette personne, comme tu dis, qui est malchanceuse, mais honnête.
Hein? Oui, c'est ça.
Elle, il ne faut pas la pénaliser, il ne faut pas qu'elle traîne, parce que essentiellement, si les gens traînent leurs dettes toute leur vie et ne sont pas capables d'en être libérés jamais, bien, ça va finir par des suicides. Hein? Ça va finir par des situations extrêmement dramatiques de gens qui, ils ont fait une erreur, mais c'est quand même pas la fin du monde. Mais moi, je pense qu'il faudrait que, à partir de 3 faillites, là, bon, une... 2 gros maximum, mais à partir de 3 faillites, là, il faudrait vraiment qu'il y ait des changements ou en tout cas des normes beaucoup plus strictes pour les registraires à travers le Canada, parce que là, le Québec, on a l'air plutôt laxiste, là. Hein? Si
on
je regarde ce qui se passe en Alberta, ce qui se passe même à Toronto, les registraires québécois semblent plus laxistes. Et là, c'est là qu'il faut agir. C'est là qu'il faut dire, une minute, là, les conséquences pour une troisième faillite, il faut que ça soit dissuasif, mais d'une façon importante, parce que sinon, ça va pas s'éteindre.
Là. Ça va pas s'arranger, exactement. Très bien, Katia Gagnon, bravo pour l'enquête qui se poursuit donc dans vos pages demain, donc dans la presse, où vous êtes journaliste et chef de l'équipe d'enquête. À lundi prochain.
Bye.
Bye. Dans un instant, la bonne nouvelle du jour, c'est la ministre Sonia Lebel, donc qui annonce que les victimes d'agressions sexuelles vont pouvoir obtenir les services d'un avocat ou d'une avocate. Dans un instant.